pour ou contre la fin de vie à propos de Vincent Lambert, pour ou contre l'avortement en Irlande du Nord, les députés britanniques viennent d'autoriser l'IVG et le mariage pour tous également dans la province britannique. Autant de questions vertigineuses que nous a posé l'actualité cette semaine. Bonjour Frédéric Vance.
Bonjour Amélie Perrier.
Philosophe, membre du comité d'éthique. Alors on avait envie de réfléchir ensemble sur ces questions et de s'éloigner un peu des diatribes, des débats peut-être un peu trop passionnels. On est tombé cette semaine peut-être un petit peu trop souvent dans la simplification.
Justement, dans le pour ou contre. Alors qu'en réalité, il y a des questions dans la vie humaine qui ne se résolvent pas seulement par le pour ou contre. Les questions de fin de vie sont évidemment de celles-là. On est face à des choix qui sont tous difficiles et tous négatifs, entre deux mots, on pourrait dire. Et c'est vrai que c'est caricatural et souvent violent de dire que l'un est, par exemple, vous avez dit pour ou contre la fin de vie. Personne n'est pour la fin de vie. Tout le monde cherche, disons, la fin de vie la moins douloureuse et la plus paisible et la plus humaine possible. Et face à des situations qui sont forcément négatives et entre lesquelles il faut arbitrer et trouver le meilleur chemin et surtout la meilleure répartition aussi, le meilleur respect des uns et des autres dans ces décisions très contraintes par la vie elle-même.
Cette manière de lire l'actualité pour ou contre, c'est de mettre un bien contre un mal et justement vous dites que là on se trompe en fait.
On se trompe parce que, par exemple, dans les deux cas que vous avez cités, on peut même prendre l'exemple évidemment de l'avortement. On dit qu'il y a des gens qui sont contre l'avortement, ils sont contre le principe même de l'avortement, ça c'est vrai. Et de l'autre côté, est-ce qu'il y a des gens qui sont pour l'avortement? Je crois que personne n'est pour l'avortement. Les gens qui demandent dans tous les pays, il y en a évidemment, il y a une division. Déjà, c'est le premier point qu'il faut noter, il y a une division. Donc personne n'est pour la division non plus. Mais ceux qu'on dit être pour l'avortement, ils ne sont pas pour ces décisions qui sont forcément difficiles. Chaque femme mesure ce que c'est qu'un avortement, mais ils sont pour un principe qui est le droit à en décider dans certaines limites, dans certaines conditions, face à des choix douloureux et négatifs. Et donc, je pense qu'il faut jamais caricaturer ceux qui ont des décisions difficiles à prendre. Ils les prennent toujours avec la conscience du négatif. Ceux qu'il faut critiquer, c'est ceux qui pensent que c'est simple. En fait, moi, en éthique, j'ai un principe très simple. Celui qui n'est pas déchiré, celui qui n'a pas conscience de la difficulté du problème est déjà dans l'erreur. Et entre deux personnes, il faudrait toujours choisir, c'est un petit peu le jugement de Salomon, ça peut paraître un peu facile, mais je pense que c'est pas le cas. Entre deux personnes dans une décision, il faut toujours choisir celle qui est la plus déchirée. Entre les deux mères, vous savez, dans le jugement de Salomon, la bonne mère, c'est celle qui souffre. Celle qui a un choix simple, facile, doctrinaire, dogmatique, c'est qu'elle est dans l'erreur. Et tous ceux qui pensent que c'est simple se trompent. Tous ceux qui pensent que c'est compliqué ont déjà un peu raison, il faut les encourager dans leur réflexion.
Et justement, dans la chronique que vous signez dans Libération cette semaine, vous dites qu'il s'agit en fait là de dilemme. Alors dilemme, pas au sens est-ce que je prends une glace au chocolat ou à la vanille, c'est pas ça le dilemme, c'est le dilemme au sens qu'en a donné le philosophe Jakub Čapek, c'est ça ?
Jakub Čapek est un philosophe tchèque qui dirige en ce moment le département de philosophie de l'université Charles à Prague, et c'est vrai qu'il a réfléchi sur les ambiguïtés de l'action, de la décision humaine. Le dilemme, c'est un mot grec qui veut dire qu'il y a deux possibilités. Et donc tout choix est un dilemme en un sens. Est-ce que je vais choisir justement la glace à la vanille ou au chocolat? Ça peut être tragique. Mais le vrai dilemme, tel qu'il l'a théorisé dans un très beau livre sur l'action, c'est quand on a justement un choix entre deux solutions, toutes les deux négatives, toutes les deux profondément négatives dans la vie humaine. Est-ce qu'il faut, par exemple, en fin de vie, ce qu'on appelle la fin de vie, c'est quand il y a un verdict d'incurabilité. Donc on n'est pas entre la vie et la mort, justement. On n'est plus entre...
C'est le cas de Vincent Lambert. Il allait mourir, il est mort.
Alors Vincent Lambert, c'est un peu plus compliqué. Il n'était pas vraiment en fin de vie, mais il était face aussi à deux choix négatifs. Enfin, les gens qui le représentent.
Dans un état incurable, quand
voilà,
même.
Voilà, incurable, irréversible.
Irréversible.
Mais pas non plus qui entraînait la mort à lui tout seul à court terme. Mais entre deux états profondément négatifs, c'est-à-dire rester dans un état de vie sans conscience, de survie sans conscience personnelle, ou bien interrompre cette souffrance par un geste qui personne n'a jamais considéré comme simple. Donc c'est toujours un choix entre deux souffrances. Dans un cas d'arrêt de traitement, dans une fin de vie, là vraiment, où la mort approche, on pèse finalement non plus entre la guérison et la mort, ce serait évidemment toujours en faveur de la guérison, mais entre, je dirais, la mort et le pire que la mort. Une souffrance qui peut être considérée comme pire que la mort et où la mort elle-même, non pas voulue pour elle-même, mais plutôt comme la conséquence d'un soin, d'éviter la souffrance, la mort peut apparaître douloureusement comme un moindre mal. Mais vous voyez, il ne faut surtout pas dire que quiconque désire la mort ici. Être pour la mort, ce serait, c'est évidemment une tentation des humains, hein, qui font la guerre, qui s'entretuent, mais c'est ce à quoi tout le monde ici doit résister.
Et vous dites donc que si l'on tombe aujourd'hui dans des débats trop simplistes, c'est parce qu'on refuse le dilemme, on refuse le choix entre deux négatifs, en fait.
Je pense que la première chose, c'est de reconnaître qu'il y a un dilemme et que chacun d'entre nous est placé devant la nécessité de choisir un moindre mal et qu'il faut, et que le rôle de la loi, puisqu'en fait, il y a la question de ce qu'on décide et aussi de qui doit décider. Le rôle de la loi, c'est de cadrer le contenu du dilemme, de dire ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas du tout. Donc, il y a quand même le contenu, hein, le dilemme est dans un cadre. Et puis, après, de décider justement qui doit trancher le dilemme. Entre les humains, il y a deux questions. Il y a dans un dilemme, qu'est-ce qui est le moins pire, pour employer une expression qui est adéquate, en fait. Et puis, qui doit trancher? Et cette question-là, par contre, elle n'est pas relative. À un moment, il faut trancher, ne serait-ce que parce qu'il y a un droit, et que, comme vous le savez, s'il y a une faute, s'il y a une erreur, il y a une seule personne au bout du compte qui va être incriminée. Donc, on passe assez vite de l'éthique au droit, et du droit aussi à la politique, et tout ça est normal. Il ne faut pas non plus s'étonner qu'il n'y ait pas seulement les médecins ou l'amour des proches. Quand il y a des conflits, on a besoin de la société et la société fait partie finalement des inventions humaines pour affronter le négatif.
Vous dites que quand on refuse le dilemme, quand on se réfugie dans des débats trop simplistes, la conséquence c'est qu'on alimente les conflits, on oppose les humains ou les groupes humains entre eux.
Mais bien sûr, évidemment, parce que si on caricature, si on dit, voilà, moi je suis pour la vie et vous êtes pour la mort. Par exemple, on dit à une femme qui fait un choix forcément difficile pour elle. Alors évidemment, il faut aussi avoir conscience que il y a parfois une absence de réflexion sur les enjeux du choix. Mais profondément, dire qu'une femme, par exemple, est pour l'avortement me semble toujours caricatural. Ne serait-ce que dans le moment de la décision, chacune va peser. Voilà. Donc dès qu'on dit qu'il y a du pour ou contre, en fait, on construit des camps opposés et on met quelqu'un du côté du négatif absolu. Donc l'autre est pour la mort. C'est quand même terrible. Et on se met soi-même du côté du positif en oubliant que même si on a une conception du bien, eh bien, on fait tous face à des situations négatives. Ça ne veut pas dire que tous les choix se valent. Il y a quand même, face au pire, il y a du moins pire, il faut définir des cadres. Et surtout, il y a la nécessité vitale de trouver un accord entre les humains sur ces questions, sur ces dilemmes. Mais déjà, reconnaître le dilemme, reconnaître qu'on n'est pas dans le simplisme, c'est déjà faire un grand pas vers la conciliation entre nous.
Et c'est vrai que c'est comme ça que l'on peut expliquer les réactions aussi violentes et cette opposition entre sur l'affaire Vincent Lambert, hein, entre les parents qu'on qualifie de catholiques, donc forcément intégristes, et de l'autre côté, la compagne qui est forcément du côté des soins, de l'humanisme.
Voilà, je pense qu'il faut caricaturer personne. Je pense que d'abord, il faut un moment maintenant à ce stade ici, hein, et il y a une pudeur à avoir. Il y a aussi il y a un deuil que maintenant, je pense, évidemment, tous partagent et qu'il faut par pudeur ne pas intervenir dans ce conflit intime. On n'intervient pas dans l'intimité, mais c'est vrai que ce qui a rendu cette affaire publique, ce qui en a fait une affaire, c'est non seulement le tragique de la mort et de la vie humaine souffrante, mais ce conflit. Et donc, ça nous a tous placés vers une projection très compliquée. Chaque citoyen est ici amené à se représenter soi-même face à la mort, à représenter ce que ça peut faire de ne plus être en mesure de décider, de transmettre à des proches, et puis maintenant de se représenter un conflit possible entre les proches. Et je pense que ça devrait tous nous amener à penser quelles sont les bonnes institutions, je dirais, pour éviter qu'on en vienne là. Qu'on admette qu'il peut y avoir du désaccord. Il faut admettre le dilemme, mais il faut admettre aussi le désaccord. On a le droit de ne pas tous être d'accord. Mais il faut maintenant que tout le monde se demande quelles sont les meilleures institutions pour l'éviter. Et ce sera forcément des institutions. On peut critiquer la loi actuelle, on peut critiquer telle ou telle chose, mais on ne peut pas critiquer le principe d'une loi, le principe d'un cadre.
C'est à l'État de trancher ces dilemmes, alors ?
L'État ne tranche pas le dilemme, mais il fournit le cadre pour le trancher. Il dit qui va le trancher, dans quelles limites. Après, la décision à tel moment va être prise par quelqu'un dans le cadre de la loi. Si elle est contestée, elle sera contestée. La démocratie prévoit toujours des contre-pouvoirs. Donc il y aura des appels, là il y en a eu. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de procédure. Donc il y a une procédure qui, à un moment, bien sûr, doit aboutir à une décision. Il y a des instances de justice. Et je pense que la première chose, c'est que effectivement l'État n'est pas celui qui... L'État n'est pas médecin, l'État n'est pas parent n'est pas époux, n'est pas épouse. L'État est un cadre pour que les uns et les autres le fassent. Donc il y a une responsabilité politique, mais qui est de construire le cadre. Et je pense qu'il ne faut pas confondre. L'État n'est pas ici un monstre froid ou un acteur individuel. C'est le cadre dont on a tous besoin.
À 8h31, l'invité du grand entretien de France Inter, c'est Frédéric Worms. Frédéric Worms, un autre exemple qui traverse l'actualité, c'est la crise migratoire, ces migrants hein, qui arrivent par la Méditerranée. On en est, selon l'OIM, à 42 000 arrivés depuis le début de l'année, 682 morts ou disparus en Méditerranée. Et là aussi, on a l'impression qu'on simplifie peut-être parfois un peu trop le débat entre les pays populistes et les pays humanistes qui vont accueillir ces migrants.
Alors là, pour moi, si vous voulez, c'est pour prolonger un peu la réflexion sur les dilemmes. Je pense que le dilemme est plus en amont. C'est-à-dire, en fait, on a des contraintes contradictoires entre les conflits qu'il faut traiter. Bientôt, il y aura des migrants ou des réfugiés. Moi, je préfère dire réfugiés ou exilés économiques ou écologiques. Et il va y en avoir beaucoup. Et en même temps, il faut bien trouver une solution. Ça pèse aussi, évidemment, sur le monde entier qui doit organiser la réponse.
Donc là, ces exilés qui peuvent mourir en Méditerranée. De l'autre, que fait-on d'eux une fois qu'ils sont arrivés sur notre territoire?
Il y a un devoir de soutien. Il y a des contraintes objectives. Il faut là non plus pas caricaturer. Même ceux qui pensent comme moi, qu'il y a de l'inconditionnel, elle pense aussi qu'il y a des contraintes. Donc on est face à un dilemme très large, un peu comme la vie et la mort. Là, c'est vraiment la survie collective et en même temps les principes du droit. Comment est-ce qu'on fait pour à la fois respecter le droit et quand même donner des conditions de survie à tout le monde et ne pas fragiliser les sociétés démocratiques aussi. Bon. Mais justement, là aussi, je pense qu'on caricature en disant il y en a qui sont pour... l'accueil, d'autres qui sont pour le rejet, et il faut là aussi construire une procédure qui permette de concilier les impératifs contradictoires et là où il y a aussi de l'inconditionnel. Donc je dirais, il y a quand même de l'inconditionnel. L'inconditionnel, là ici, c'est ne pas laisser mourir et après construire les conditions communes d'une vie. Ce qui est un peu regrettable, c'est que justement, on a construit l'Europe comme un cadre plus large, plus fort, avec la possibilité d'affronter des problèmes difficiles. Et là, il faudrait, je pense, une insistance plus grande sur des procédures claires que les citoyens comprennent, en montrant pourquoi on a les moyens collectivement d'affronter. Et d'affronter, ça n'est pas le tout ou rien. Ça n'est pas donner à tout le monde les conditions qui pèseraient sur l'économie, mais c'est respecter les principes absolus et ensuite répartir les contraintes. Et je crois vraiment que, et ça doit évidemment se faire aussi au niveau mondial, ça n'est pas un vœu pieux. Je pense que là aussi, ce sur quoi on doit travailler, c'est les urgences vitales et les procédures sociales, les procédures politiques, et surtout le discours, l'explication.
Et vous dites que certains en profitent pour aggraver ces dilemmes. Qui ça? Les populistes, les fanatiques?
Bien sûr, parce que les dilemmes, encore une fois, ils sont très sérieux. D'un côté, il y a la vie des migrants, d'un autre côté, chacun craint aussi pour... elle peut avoir des frayeurs sur la vie. Des deux côtés, c'est du vital. Et le vital, c'est aussi le mortel, et ça vient toucher les passions. Donc certains vous disent, bon, on vous demande de sauver les gens qui meurent en mer, mais il s'agit de votre vie, de votre sécurité. Et du coup, on est face à des enjeux de vie et de mort des deux côtés. Donc il faut calmer le jeu, il faut dire... il faut d'abord sauver la vie des uns et des autres. Il y a une urgence quand même un peu plus grande. On est tous mortels, mais là, il y en a qui se noient. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, il faut prendre au sérieux les vraies contraintes. Donc il faut effectivement, ceux qui durcissent le dilemme conduisent à la guerre.
Frédéric Worms, vous êtes un spécialiste de la vie du soin. Vous avez également signé en 2017 les maladies chroniques de la démocratie. Et je vais aborder par là le dernier point d'actualité qui nous mobilise beaucoup, c'est l'affaire François de Rugy. Les homards, les photos de grands crus, ces affaires, ces scandales, est-ce que ça confisque le débat politique aujourd'hui?
Merci à vous. On peut considérer que ces sujets sont très différents et quelqu'un qui fait de la philosophie n'est pas appelé à commenter comme ça au jour le jour. Mais il y a effectivement des points communs malgré tout. Je pense qu'une démocratie, c'est pas du tout un régime de bons sentiments. Une démocratie, c'est le régime, peut-être le seul régime politique, d'ailleurs jamais parfait, il y a des degrés de démocratie, qui est capable d'affronter les problèmes, d'affronter les dilemmes, d'affronter les crises et d'affronter aussi les divisions intérieures et d'affronter la critique. Et donc, effectivement, il faut affronter les dilemmes vitaux. La bioéthique, faut pas s'y tromper, hein, c'est la bioéthique nous montre la nécessité de la démocratie. Seulement la démocratie qui peut concilier des points de vue aussi opposés qu'on a vu sur la vie et la mort. C'est seulement une Europe démocratique qui peut affronter les migrants.
Sur ces scandales,
c'est pareil. Il y a ce que certains appellent en démocratie des institutions critiques. Vous en faites partie. La presse. Il y a des journaux qui ont sorti l'affaire en question. On parle d'affaires dans les deux cas.
Mediapart, notamment.
Voilà. Donc, la démocratie, c'est pouvoir critiquer le pouvoir. C'est des contre-pouvoirs. Maintenant, il y a aussi des limites, même aux contre-pouvoirs. Nous sommes dans des démocraties solides parce qu'elles ont des critiques. Même la rue est un espace légitime de critique. Et puis, il y a un moment où la critique devient soupçon, devient paranoïa. Donc, faut toujours se méfier aussi des idéologues qui, là aussi, durcissent le dilemme, qui vont dire tous les hommes politiques sont pourris, tous les hommes politiques prennent votre argent pour faire bombance. Non, la preuve, c'est qu'ici, on peut critiquer, on doit critiquer et on doit construire les principes communs.
Frédéric Worms, un éclairage toujours passionnant hein, sur l'actualité. Grand merci à vous d'avoir été
merci à vous surtout, Amélie Pierre, et de construire le débat comme ça.
Merci à vous.